Le constat est sans appel, on se fait vieux. En 2025, plus d'un Français sur 10 aura plus de 75 ans. Et d'ici 2040, on comptera autant de retraités que d'actifs. La bonne nouvelle, c'est que cette avancée en âge est plutôt profitable. Aujourd'hui, on peut compter sur 25 à 30 années de vie de qualité en relative bonne santé après le départ à la retraite. Et la dépendance, tant redoutée, ne concerne que 17% des plus de 80 ans. Comment prendre en compte ce vieillissement et les contraintes qui l'accompagnent? Comment faire d'un processus négligé, voire invisibilisé, une opportunité pour la société? C'est l'objet du livre « Vieillissement à la croisée des projets » publié en octobre dernier aux éditions du CERF. L'une de ses auteurs, Audrey Dufeu, est l'invitée du 13-14 aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Marie-Ando.
Vous êtes une ancienne infirmière et directrice d'établissement pour personnes âgées, aujourd'hui députée La République En Marche. Et on va commencer peut-être par aller tout de suite au standard de France Inter avec l'appel de Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Vous aviez une question pour Audrey Dufeu?
Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour Madame Dufeu.
Bonjour.
Je me permets, je suis Sabrina Deliry, je fais partie du cercle des proches aidants en EHPAD, le CPAE. Les EHPAD sont devenus de véritables lieux de privation de liberté. Depuis bientôt 2 ans, nous avons sollicité le ministère à plusieurs reprises pour abroger le pouvoir de police des directeurs. Les directeurs d'EHPAD peuvent seuls décider de restrictions dans leur EHPAD et donc priver de liberté les résidents. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? On voudrait que les voix des résidents et des familles soient prises en compte. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, à Noël, mais comme depuis 2 ans, il y a encore eu des restrictions très très fortes sur le terrain, dans les EHPAD, pour empêcher, enfermer certains résidents.
Dans certains EHPAD en tout cas, oui.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça en fait toute la difficulté, c'est que chaque directeur est libre de faire ce qu'il veut. Le ministère émet donc des recommandations, qui ne sont que des recommandations, rien de directif, et chaque directeur est libre de resserrer ou assouplir ses protocoles. Résultat, certains les suivent, ça se passe très bien, et d'autres, on l'a vu encore sur le terrain, on a eu une centaine de témoignages, nous, sur le collectif de familles qui n'ont pas pu prendre leurs parents à Noël ou avec un isolement au retour, en sachant qu'en plus, certains résidents n'ont pas pu sortir de l'EHPAD, mais le personnel, lui, a pu faire la fête sans test au retour, sans test le lendemain, sans test à 7 jours.
On a compris votre témoignage. Merci Sabrina pour votre appel. Audrey Dufeu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancienne directrice d'EHPAD aussi?
Alors déjà, bonjour Sabrina, merci pour votre témoignage. Ce que vous dites, finalement, est très juste. En fait, vous appelez à des droits identiques que la personne âgée soit au domicile, dans sa famille ou en EHPAD. Et tout l'objet de l'ouvrage que j'ai écrit, c'est celui-ci. C'est vraiment le renforcement des droits des personnes âgées. Alors Brigitte Bourguignon, la ministre, effectivement, a vraiment appuyé de très fortes recommandations. Globalement, et la plupart des EHPAD respectent ces recommandations et les appliquent. Et je salue tout le travail qui est réalisé dans ces établissements médico-sociaux. De fait, certains EHPAD, parfois, sont encore récalcitrants.
Et là, le gouvernement ne peut pas prendre la main et dire « Bon, allez, rouvrez les portes, les résidents en ont besoin ».
Alors après, c'est des enjeux très locaux, territoriaux. Et c'est vrai que la prise de la parole des familles et des personnes âgées elles-mêmes est extrêmement important. Et toute la question, c'est quel espace de parole on laisse et comment est-ce que cette parole, elle remonte. Le défenseur des droits, par exemple, avait émis un rapport il y a quelques mois très fort sur le sujet. Et vraiment, je crois qu'on arrivera à lutter contre ces discriminations liées à l'âge dès lors qu'on donnera la parole aux personnes concernées. Et là, on l'a senti très fortement avec cette crise. Mais c'est des situations qui existaient déjà auparavant.
Mais encore faut-il qu'elle soit entendue, cette parole?
Qu'elle soit entendue, qu'elle soit récoltée, puisque effectivement, il faut que si vous voulez, la problématique, c'est que souvent les personnes ne sont pas conscientes elles-mêmes des discriminations qu'elles subissent avec l'âge. Et cette crise de la Covid, elle a révélé cela. Et moi, j'ai bon espoir d'entendre là toutes ces familles qui appellent au renforcement des droits des âgés pour qu'on aboutisse sur quelque chose de vraiment vertueux à l'avenir et qu'on entende et qu'on respecte. Et je sais qu'il y a des associations qui se mobilisent sur le sujet et Madame en fait partie.
Mais concrètement, ça passe par quoi? De façon concrète, c'est-à-dire oui, on recueille leurs paroles, on l'entend, même on entend les proches, effectivement, les aidants qui réclament cette ouverture, mais comment on fait pour garantir que effectivement cette parole va être entendue, respectée?
Bien, il faut passer. Alors le code pénal reconnaît les discriminations liées à l'âge, mais encore une fois, il faut que la personne en soit consciente. Le problème, c'est celui-ci, c'est que personne n'en est conscient ou alors pas suffisamment. Donc le comment on fait, eh bien c'est tous les travaux que j'ai réalisés dans l'ouvrage. J'ai écrit aussi une proposition de loi sur le sujet. pour que cette parole, elle soit valorisée. Et ça, ça se travaille bien en amont du vieillissement. Vous avez rappelé un des chiffres, la plupart des personnes âgées ne sont pas en perte d'autonomie ou en situation de dépendance. Et il y a un vrai déni de la société sur le sujet. Et tant qu'on n'aura pas levé le voile, eh bien cette parole, elle sera trop isolée et elle ne sera pas portée collectivement pour faire changer notre société sur le sujet.
À propos de votre livre, Le vieillissement à la croisée des projets, vous parlez d'un manuel de combat contre l'âgisme. La société française, elle est agiste ?
Ah, je crois que la société française, notre société occidentale de manière générale, oui, il est, parce que nous sommes basés sur une approche de performance, de réussite très forte, et basée aussi beaucoup sur le travail. Et dès lors qu'on est en retraite, souvent en fait les personnes retraitées le verbalisent assez fortement, elles se sentent mises de côté. Il y a une assimilation, si vous voulez, à la notion de personne retraitée, personne âgée, parce qu'avant, l'espérance de vie n'était pas celle que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de longévité. Avant, si vous voulez, quand on partait en retraite, on vivait 2, 3, 5 ans. Aujourd'hui, c'est 20, 30 ans d'espace de vie à réinventer, sans de problèmes de santé particuliers. Et donc, il nous faut vraiment valoriser cette longévité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un système de santé qui fait que l'espérance de vie augmente, les gens sont en bonne santé. Sauf que s'il y a des discriminations agistes liées à l'âge dans la société et qu'on met les personnes de côté de par leur âge, eh bien, on n'aura pas valorisé cette longévité.
Mais alors, c'est quoi une personne âgée ?
Ah, bah chacun a sa définition. C'est là, il y en a qui parlent de senior, de troisième âge, de quatrième âge.
C'est 60 ans, 65 ans, 70 ans.
Eh bien, si vous voulez, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Ça serait intéressant d'avoir des débats hein, sur cela. Une personne âgée, c'est une personne qui avance en âge. On est toujours le vieux de quelqu'un. Et je crois qu'une personne âgée, ça reste de toute façon une personne. Et l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des projets. Et donc, notre société, elle doit s'organiser. Nos politiques publiques doivent s'organiser pour que collectivement on entende les besoins individuels des personnes qui avancent en âge, parce que aucune personne n'est identique avec l'avancée en âge. Et trop facilement, on voudrait mettre les gens dans des cases uniquement en fonction de leurs critères d'âge biologique. Et sauf que ça marche pas, et on le voit bien.
Alors on apprend aujourd'hui dans le Monde que des anciens ministres, médecins et journalistes viennent de s'organiser en conseil autoproclamé de la vieillesse. Ils réclament en fait, il y a notamment parmi eux Bernard Kouchner, que soit créée une sorte d'instance de conseil à l'exécutif en charge des questions de personnes âgées. Vous en pensez quoi ?
Alors oui, effectivement, j'avoue, j'ai découvert ça là très récemment, parce que l'article est sorti, je crois, hier ou ce matin.
Ce matin.
À la lecture de l'article, et il faudrait que je regarde un peu en profondeur le sujet, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque je l'avais porté moi-même dans le rapport que j'avais rendu à Édouard Philippe et à Agnès Buzyn en 2019. Je l'avais appelé conseil de la transition démographique. On parle aussi de conseil de la longévité. L'idée, en fait, c'est de donner la parole aux personnes concernées. Toutes les discriminations, elles se battent et la lutte s'organise lorsque les personnes elle-même concernée par la discrimination, la dénonce. On l'a vu sur le racisme, le sexisme et plein d'autres sujets. Et donc, je pense que des organisations, des conseils de ce type, c'est très important. Après, avec une attention particulière, on a beaucoup de conseils, beaucoup d'agences en France. C'est aussi parfois très chronophage. Et donc, l'idée, c'est de pas de ralentir les choses. Ça serait plutôt que cela rentre dans un système qui préexiste déjà, le Conseil national de solidarité à l'autonomie, la CNSA, qui là a été vraiment doté de moyens renforcés. C'est avec les dernières lois, mais en tout cas l'intention est très 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 belle, et voilà, si je serais ravie de les rencontrer et de les soutenir, tout à fait.
Audrey Dufeu, vous évoquez dans votre livre la question de l'emploi et du taux d'emploi peu élevé hein, des plus âgés, 18% pour les 60-64 ans, c'est moins que nos voisins. Comment on résout ce problème sans empêcher les nouvelles générations de rentrer sur le marché de l'emploi ?
Mais je crois qu'il n'y a pas de lutte générationnelle, justement. Souvent, on entend, les personnes âgées, les personnes qui avancent en âge dans la société, elles prennent la place d'un jeune. Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, je crois qu'il y a vraiment des choses à inventer, parce que les uns les autres peuvent enrichir leur expérience de par leur vécu différent. Faut savoir qu'en France, la première discrimination à l'embauche, c'est l'âge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est non dit. On est, comme je disais tout à l'heure, sur un système de performance à tout prix, de réussite. Et je crois que c'est ce qui met de côté les personnes qui avancent en âge dans la société. Donc ça, encore une fois, la loi le reconnaît, ça doit être dénoncé. Encore faut-il en avoir conscience. Mais dès lors qu'on en parle, et je suis ravie d'être avec vous ce matin, parce que souvent, voilà, les gens n'en ont pas conscience. Vous voyez, avec la lecture du livre, il y a une dame qui après m'a dit « Mais oh là là, moi, 6 mois avant mon départ à la retraite, ils ont arrêté de m'envoyer des mails ». parce que ils estimaient que elle était plus mise en copie des mails, des dossiers qu'elle traitait, parce que c'était terminé pour elle. C'est terriblement impactant sur l'estime de soi, et puis aussi pour toute la vie qu'il y a derrière après son départ en retraite. Donc on a des choses à mettre en valeur au sein des sociétés.
Et à la fois on a ce taux d'emploi très bas, et à la fois on a un président qui évoque une possible réforme des retraites à venir pour un prochain mandat. Alors comment on rend tout ça cohérent pour les personnes les plus âgées?
Bien, il y a la réforme des retraites, la réforme du code du travail selon l'intégration des personnes qui avancent en âge, et puis il y a le respect des droits des personnes vieillissantes en lien avec la longévité, qui à mon sens ne sont pas directement liés. Si à chaque fois on raccroche tout au travail, encore une fois, on va toujours véhiculer cette idée de performance. Et moi je crois que tout simplement vieillir, c'est s'assurer que ses droits, sa citoyenneté soient la même, quel que soit l'âge, et quelle que soit finalement son intégration dans une vie professionnelle ou pas. Cela n'a rien à voir.
Michel est au Standard de France Inter. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Vous aviez un témoignage pour Audrey Dufeu.
Oui.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame. Ce que je voudrais dire, c'est que les personnes retraitées, quel que soit leur âge, sont très actives dans la société et jouent un rôle déjà qui est incontournable dans la plupart des associations, dans beaucoup de clubs sportifs, dans beaucoup de conseils municipaux, de petites villes où il y a plus de coups à prendre que d'honneurs à ramasser. Que j'avais lu dans un magazine que 13 millions d'heures de garde d'enfants sont assurées chaque semaine par les seniors. Donc je pense que tout ça n'est pas assez valorisé. Et que, premièrement, il faut peut-être réfléchir sur l'âge de la retraite pour ne pas le reporter à 67 ans, comme certains économistes le disent, parce que la retraite n'est pas un temps passif, mais que les retraités fournissent une prestation sociale, une prestation
Merci, Michel.
Pour la collectivité.
Merci Michel. Effectivement, Audrey Dufeu, report de l'âge à la retraite ou pas ? Vous êtes pour, vous êtes contre ?
Alors, sagement, les échéances de la campagne présidentielle ouvriront le débat sur le sujet. Moi, ce que je pense, c'est que si on doit augmenter l'âge du départ à la retraite, encore faut-il pouvoir s'assurer que les discriminations liées à l'âge dans le milieu du travail soient diminuées et qu'il y ait vraiment un plan d'action réel sur le sujet. Ce que monsieur dit est très juste. Les personnes retraitées sont souvent des bénévoles très, très actifs. Dans le livre, il y a des propositions sur le sujet parce que il a été remarqué que quelqu'un qui n'a pas eu d'engagement bénévole le temps de sa vie active a du mal à s'orienter après le départ à la retraite et à s'engager vers des associations. Donc je crois qu'il y a vraiment des passerelles à créer aussi pendant la vie active pour pouvoir anticiper et se projeter au moment de la retraite sur du bénévolat. Ou pas d'ailleurs, ça reste au choix des personnes.
Dernière question, Audrey Dufeu. Le président avait promis une grande loi sur le grand âge. Finalement, on a fait rentrer quelques mesures, mais c'était dans le budget de la Sécurité sociale et pour un montant de 400 millions d'euros. Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu ?
Alors cette grande loi, oui, tout le monde l'a appelée de ses voeux. Je crois que le contexte sanitaire a fait que le calendrier législatif a été très contraint. C'est pour ça que j'avais tenu à rédiger cette proposition de loi que j'avais écrite sur le renforcement des droits en amont de toute la gouvernance très technique sur le sujet. Elle n'a pas été mise malheureusement au calendrier, mais c'était un acte symbolique et important pour moi de le déposer.
Audrey Dufeu, députée LREM et autrice du livre Le vieillissement à la croisée des projets aux éditions du CERF. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Je termine avec le témoignage de Marie qui était au Standard de France Inter qu'on n'a malheureusement pas pu prendre et qui dit « Je vis avec une maman de 90 ans. Elle est drôle et pleine de vie. Ce n'est pas du tout un poids. »